Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Gédard, le 13 juin 1989.
Il fallait remonter jusqu'au mystère de la très sainte Trinité pour comprendre la finalité propre de la grâce. Par la grâce, nous sommes enfants de Dieu, fils bien-aimé du Père. Dans l'unique fils bien-aimé, et nos vœux de religion, si proprement ils se fondent sur le mystère de l'incarnation, étant donné que en justice originelle, il n'y aurait pas eu de vœux. Je ne peux pas dire que les vœux s'expliquent par la grâce. Vous voyez, il faut bien comprendre ça. Les vœux ne s'expliquent pas par la grâce. Les vœux s'expliquent théologiquement parlant, comprenez bien. Les vœux s'expliquent par le mystère de l'incarnation. Comme fondement, le mystère de l'incarnation lié à la rédemption. Les deux étant liés d'une manière indissoluble dans la très sainte Trinité, dans la volonté du Père. Et le mystère de la compassion est la mesure propre, la cause exemplaire propre. Marie est celle qui est le plus proche de Jésus, et son mystère de l'Immaculée Conception, qui est une grâce chrétienne, lui permet de vivre le mystère de l'incarnation et de la rédemption d'une manière unique. Elle le vit à la croix, dans son mystère de compassion. C'est là où elle nous engendre la vie divine. C'est là où elle est mère. Donc le premier cadeau que Marie nous donne, ce sont nos vœux. L'esprit de nos vœux. C'est ça qu'elle a donné à Jean en premier lieu. Dans la grâce chrétienne. Je crois que c'est très important de comprendre ça. L'Église a compris progressivement. Et on peut dire que c'est celle qui nous est donnée, c'est celle qui vit le mystère de la compassion. Elle est notre mère. Donc, elle nous donne ce qu'il y a de plus caractéristique en elle, dans son âme, son lien avec Jésus. Son lien avec Jésus immolé à la croix. Ce qu'elle vit dans le mystère de la compassion. Et pour vivre ce mystère de la compassion de la manière la plus forte pour nous, ce sont nos vœux. Nos vœux veulent expliciter dans notre grâce chrétienne ce qu'il y a de plus chrétien. Notre manière de pouvoir coopérer de la manière la plus proche du mystère de la rédemption et recevoir ce qui caractérise la grâce chrétienne qui nous lie au mystère de l'incarnation. Et c'est complexe si on veut comprendre autant qu'on le peut ce mystère, le pos de nos vœux. Comment nos vœux se sont réalisés, le comment de nos vœux. Ce que Saint-Thomas ne fait pas. Parce que dans la Somme, il donne une théologie scientifique des vœux. Nous devons, nous, en théologie mystique, comprendre le comment de notre vie religieuse, qui est de fait une vie chrétienne, qui est la vie chrétienne la plus explicitement vécue. Si Dieu, en raison d'une maladie, en raison d'un caractère impossible, ça existe, hein. C'est conséquence du péché originel. C'est que nous sommes absolument incapables de mener une vie commune. On serait des bourreaux constants vis-à-vis de nos frères. Et on aurait des tentations permanentes de leur couper le cou. Alors, à ce moment-là, il peut se faire que Dieu nous demande de ne pas vivre la vie religieuse, mais de vivre l'esprit de la vie religieuse. Tu vas être très attentif à ça. Ce sont des critères de vocation, ça. Je crois que le chrétien qui veut aller jusqu'au bout de sa vie chrétienne demande à la vie religieuse. Ça me semble. Ce que saint Paul nous dit, ce que l'Église a toujours vécu, c'est pas nouveau, ça. Ce que Jésus lui-même dit dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, c'est un peu caché, vous voyez. Je me souviens, première prédication que j'ai faite à Rueil-Malmaison. J'avais un ami très cher qui était près du même âge que moi. Il est mort maintenant. Il m'avait invité, il était vicaire, pour un groupe de jeunes. Et ces jeunes m'avaient demandé de leur parler de la vocation. Alors j'ai pris les grands textes où saint Paul. Ce que c'est que la vocation. Et comment saint Paul nous montre l'absolu de la vocation et le conseil qu'il nous donne pour ne pas être divisé. Oui. Problème de l'unité. C'est bien trop, au point de vue métaphysique, hein. Problème de l'unité, au point de vue mystique. Si vous mariez, vous serez divisé. Saint Paul le dit. Le soir, je recevais un coup de téléphone d'un autre prêtre que je connaissais bien. Il dit, mais mon père, nous n'avons plus le droit de prêcher ça. Mais c'est beaucoup trop absolu, saint Paul. Tu ne peux plus dire ça. Il n'était pas religieux. Alors je dis, jusqu'à nouvel ordre, tant que l'Église ne supprime pas des livres saints ce passage de saint Paul, moi je continuerai de le prêcher. Vous pouvez demander à Rome si, en continuant de le prêcher, je suis hérétique. Si Rome me dit que je ne dois plus le prêcher, alors je dirai à tous que ce passage n'est plus canonique. Mais tant qu'il est canonique, il fait partie de la tradition de l'Église. Et les jeunes ont le droit d'avoir la vérité. Objectivement, la vie religieuse est un don que nous faisons à Dieu plus absolu que de rester dans le monde. C'est évident, ça. C'est ça qui nous permet de tenir, du reste. Oui. Si c'était pas plus, si on ne faisait pas un meilleur don à Dieu par la vie religieuse, on ficherait le camp tout de suite. C'est bien évident. C'est parce qu'on sait que c'est un don plus absolu. Et que par là, on fait un don plus absolu. Alors, ceux qui ne peuvent pas, c'est autre chose. Dieu leur a donné une petite santé difficile. Dieu leur a donné un caractère de chien. Dieu a permis, c'est pas Dieu qui leur a donné, mais Dieu a permis un caractère de chien. C'est un caractère impossible. Alors, voilà. Les supérieurs vous disent, écoutez, vraiment, vous n'avez pas le minimum qu'il faut. Je peux vous faire être très très miséricordieux, d'aller jusqu'au bout de la miséricorde, parce que c'est vrai, c'est pas commode de dire à quelqu'un, vous n'avez pas le caractère pour ça. C'est vrai, il y a une question de vocation. C'est pas une question uniquement de volonté. C'est une question de vocation. C'est un appel du Christ. Il y a une mission particulière du Christ et de l'Esprit Saint pour la vie religieuse. Ça, c'est sûr. Est appelé impérativement par Dieu. Et le critère, je vous l'ai déjà dit, je le répète, est toujours un critère négatif. Le jeune homme riche s'en alla triste. Il n'a pas osé d'aller jusqu'au bout. tous ces jeunes gens riches. Vous, moi je ne suis plus. Alors, c'est une chose. Mais vous êtes des jeunes gens riches et bien portants. Et vous avez une possibilité d'avoir une vie humaine et de développer une vie humaine. Mais on donne à Jésus notre capital de vie. On le donne complètement. Et il en fait ce qu'il veut. Vous savez, il ne faut jamais avoir de projet quand on a vu les choses. Soyez sûr que ça n'ira pas. Jamais. On donne tout, c'est tout. Parce qu'on veut rester fidèle à Jésus. C'est un appel impératif. Mais quelqu'un qui hésite trop, est-ce que c'est le mariage, c'est la vie religieuse, c'est le mariage, la vie religieuse. On est un peu comme l'âne de Buridan. Il ne se décide pas, là. 20 ans, 30 ans, je ne sais pas encore, 35 ans, je ne sais pas encore, une retraite tous les 3 ans pour déterminer, pour être sûr que pour la vie religieuse. On peut le dire. Parce qu'il peut avoir des scrupules. Si la vie religieuse est plus nette, ça ne se décide pas toujours à 20 ans, hein. Ça se décide quelquefois à 30 ans et quelquefois à 40 ans. C'est fort. Même quelquefois 50 ans. Et puis des vocations de veuf. Ça peut exister. Il ne faut pas les retrancher. On n'a pas le droit. Parce que dans la primitive Église, les veuves et les veufs étaient considérés comme disposition à la vie religieuse. Du fait même que Dieu ait retiré celui qui divisait, n'est-ce pas, ou celle qui divisait. Alors, le Seigneur reprend l'unité, n'est-ce pas, il refait l'unité. Et c'est vrai, il faut comprendre les choses comme elles sont. C'est comme ça que le Seigneur reprend. Mais vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que la vie religieuse est difficilement d'adopter, même dans le clergé. Il faut le reconnaître, ça. Donc il faut se faire pardonner d'être religieux. Il faut donc être au service des autres. Et que la vie religieuse n'est pas assez au service des prêtres diocésains. Au service, comme Jésus s'est mis au service. Alors on veut être plus proche de Jésus. Jésus dit, pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Donc dans la vie religieuse, et les premiers qui doivent être servis, c'est les prêtres diocésains. Sont nos frères qu'on doit aider et soutenir. Parce que nous sommes, nous, soutenus par des grâces de Dieu, les grâces de la vie religieuse et les grâces de la charité fraternelle dans la vie religieuse. Ce sont des grâces inouïes. Dieu fait des liens dans la charité fraternelle qui sont plus forts que tout. Oui, le vieil Aristote disait que l'amitié entre des contemplatifs, c'était ce qu'il y avait de plus grand dans l'amitié. Il dirait tout de suite, hein, l'amitié dans la vie religieuse, l'amitié humaine, qui naît dans la vie religieuse, vous voyez. Toujours distinguer les amitiés avant et les amitiés après. Les amitiés avant, c'est très long à purifier. Les amitiés après, elles naissent dans le climat de la vie religieuse. C'est très différent. Donc elles ont la marque de Dieu. Et alors elles ont un caractère qui est beaucoup plus grand. Comprenons que ce que nous dit saint Paul reste toujours vrai, objectivement, la vie religieuse est plus parfaite et il y a un don que nous faisons à Dieu plus absolu. Pas subjectivement, Dieu se sert de tout, hein. Mais objectivement, ça fait partie de la théologie, vous n'avez pas le droit de dire l'inverse. Parce que l'Église a toujours maintenu ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les religieux sont plus saints que les prêtres séculiers. Pas du tout. Ça ne veut pas dire du tout ça. Ça veut dire qu'il y a une exigence plus grande de Dieu. Et Dieu fera comprendre si c'est en dehors de la vie religieuse qu'on doit établir au sacerdoce. Ça ne veut pas dire que tous les prêtres doivent être religieux. Non. Mais il faut qu'entre les prêtres et les religieux, les liens soient beaucoup plus forts crois que c'est la grâce de Vatican II. C'est la grâce de notre monde d'aujourd'hui. Soit beaucoup plus fort. Et les liens entre la vie religieuse et les séculiers, les chrétiens qui sont dans le monde, doivent être beaucoup plus forts qu'avant. En respectant la séparation, c'est sûr. Mais ils doivent être beaucoup plus forts. Parce que nous vivons une chrétienté qui a de la peine à vivre. Et il faut que les fidèles comprennent qu'ils doivent être gardiens du célibat de leurs prêtres et de l'esprit de virginité des religieux. Dans un monde comme le nôtre, ça on le verra, parce que c'est important aussi de se rappeler ça. Donc, comprenons que la grâce chrétienne nous lie à Marie dans sa consécration première à Dieu et dans sa consécration toute spéciale dans le mystère de la compassion. Et que notre vie religieuse, si nous sommes attentifs, est un don de la Vierge Marie pour chacun d'entre nous, mais spécialement pour nous à Saint-Jean. Ça, on a le droit de le dire. Bon, le bon père Joseph, vous savez, de l'Hérens, à qui on disait ça au début. Il disait, mais mon père, partout, c'est la Vierge Marie qui commande la vie religieuse. Pas que Saint-Jean. Puis un beau jour, le père Abbé l'avait envoyé pour faire une visite canonique, parce que le père Abbé devait faire une visite canonique chaque année. Alors il vient, on n'a pas du père Abbé, à la fin de la visite canonique, il m'a dit, mon père, j'ai compris ce que vous avez dit. C'est vrai. Pour Saint Jean, c'est très net. C'est Marie qui les conduit tous à Saint Jean. Et c'est très vrai. Je crois qu'il y a une grâce spéciale. C'est pas étonnant, puisque c'est Jean et Marie qui, officiellement, sont les premiers. Et donc, il y a ça. S'il n'y avait pas cette grâce mariale, moi, j'aurais un doute pour la vocation de Saint-Jean. Vous voyez ? J'aurais un doute. Je dirais, peut-être mieux aller autre part, parce que vous serez peut-être agacé. Marie est tellement présente. C'est pas la peine de vous agacer. Mais quand on comprend que notre vocation chrétienne dépend de celle de Marie, on comprend alors combien il faut qu'on soit lié. Et quelqu'un de Saint-Jean n'aurait plus ce lien avec Marie, j'aurais peur pour sa vocation, vous voyez, et pour sa fidélité, j'aurais peur. Parce qu'elle est, elle est garante, d'une façon très très spéciale, notre avocate, pour nous rappeler tout le temps ça, et nous porter, nous permettre d'aller. La grâce chrétienne donc nous lie à ces trois. Marie, l'incarnation, la rédemption. La grâce chrétienne reste une grâce qui nous lie à la très sainte Trinité en tant que grâce. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois. Je reprends pour que vous voyez bien ça. Il faut que ce soit, j'allais dire, dans votre esprit très structuré. Et je crois qu'en disant ça, je suis absolument dans toute la grande tradition chrétienne. Mais qui n'est pas toujours rappelée. Il faut qu'elle soit très actuée pour nous. Que nous comprenions cette exigence très très profonde que la grâce chrétienne demeure une grâce qui nous lie immédiatement à la très sainte Trinité. Mais ça nous permet de comprendre que nos vœux vont nous lier au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, d'une manière toute spéciale, que nos voeux nous vont nous lier au mystère de la compassion, au mystère de la rédemption, au mystère de l'incarnation. Nous avons ce privilège. Et nous sommes de la race de David. Mais faisons attention, hein. Il ne faut pas être de la race de David au déclin. Parce qu'il dormait au moment de la naissance de Jésus. devons être de la race de David, conquérante. Parce que nous avons, de fait, ces privilèges d'amour. Vous voyez, il faut qu'on aime la vie religieuse. Il faut qu'on en soit fier, au sens profond. C'est dans la mesure où on l'aime et qu'on soit qu'on en est fier, qu'on gardera la vie. Si vous n'aimez pas la vie religieuse, et vous n'êtes pas fier de votre vie religieuse, vous ne garderez pas la vie. Vous prendrez n'importe quelle excuse. Oh, je voyage, quoi. Et vous déposez votre vie religieuse parce que vous voyagez. C'est que ce truc-là. Mais non. Et je vous affirme qu'en voyageant avec la bio, on fait des tas de rencontres qu'on n'aurait jamais fait autrement. C'est très curieux. C'est un fait. Je ferai un journal de route, vous voyez. Je ne parle pas seulement de l'autostop, n'est-ce pas ? Mais l'autostop, c'est merveilleux, puisqu'on évangélise les gens dans leur milieu. L'auto, c'est un milieu. Il y a des tas de gens que vous n'auriez jamais vus. Jamais. Et là, vous les rencontrez. Et ils sont contents. C'est comme ça. Ni vu ni connu. Ils en parlent à un curé. Dans le fond de leur cœur, hein, ils sont baptisés quand même. De jamais parler à un curé, c'est pas bien. Là, un religieux. Alors, n'oubliez pas que ceux qui ne sont pas encore prêtres, qui n'avaient pas le droit de donner l'absolution. Oui, parce qu'ils le demandent quelquefois, n'est-ce pas ? Ils demandent, peut-être parce qu'on fait pour eux, c'est religieux, ils portent la vie. C'est ça. Je vous dis ça, parce que c'est important de comprendre ces choses-là. Parce que j'étais à Aurillac hier matin. Et c'est vrai que c'est pas commode d'enseigner dans une grosse boîte 1500 élèves complètement laïcisés, bien que ce soit le domaine qui appartient à une congrégation religieuse. Des religieuses. Ça n'appartient pas à l'évêché. Donc, c'est soi-disant une maison religieuse. Éducation chrétienne. Dénominativé. Et les pères se demandaient s'ils allaient garder la vie ou pas pour les étudiants, puisque ça avait des petits sourires. Vous savez, hein, ces petits sourires, très bien. S'ils sourient quand vous passez, elles leur demandaient pourquoi. Alors ils ne recommenceront pas une seconde fois. C'est ce que je fais tout le temps. Vous le demandez, vous ne pas avoir peur. Vous leur dites, mais oui, on est religieux. Et puis à ce moment-là, on leur fait un petit sermon supplémentaire sur la vie religieuse, à dominem. À partir de là, c'est... Vous voyez, Jésus est sanctifié comme ça, la Samaritaine. Donne-moi à boire. C'était un surcroît de travail pour la Samaritaine. C'est vrai, il faut avoir cette espèce, ce désir apostolique. Il ne faut pas le faire d'une façon intempestive, il faut le faire quand l'Esprit Saint nous pousse, vous lui demandez toujours conseil. Et puis quand, de fait, les circonstances providentielles le permettent. Alors je vais poser la question, dire, c'est un laïc. Plutôt, c'est pas moi qui l'ai posé. C'est notre cher père Dominique Marie. Il a posé la question devant moi. J'étais très content. Alors il a dit, ce laïc, sûrement un bon chrétien, je ne sais pas, sa ferveur, je n'en sais rien. Il n'y avait pas de baromètre au-dessus de lui pour mesurer la ferveur. Il a dit, oui, au début, ils ont été très étonnés. Ils n'avaient jamais vu de moine, jamais vu de religieux. Ils ont été très étonnés. D'après tout, c'est un bon étonnement. Ça fait quand même partie de la vie chrétienne, ça. La vie religieuse. Et qu'ils envoient de vrais et de jeunes. C'est bon. Ça leur montre que c'est actuel. Ils sont étonnés. Vous avez dû leur expliquer. Et c'était bien. C'était l'occasion de leur expliquer. Quant aux professeurs, certains ont été enchantés. D'autres, indifférents. On vit un régime libéral. Vous habillerez en bonze. Tout le monde vous regarderait, puis vous très bien. Et le bonze continuerait. Et son crâne ne rougirait pas. Parce qu'il accepterait d'être bonze avec les coulées. Vous savez bien, parce qu'il y a 5 brûlures sur la tête. À Taïwan, j'ai vu des petites bonzesses. C'est extraordinaire. Avoir, je sais pas, 16 ans, 17 ans. Elle était merveilleuse. Elle était très heureuse qu'on s'arrête et qu'on parle avec elle. Oui. Mais ça fait partie de... Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun... Mais ceux qui viennent de l'Inde, n'hésitent pas d'être en avis chez nous. N'hésitent pas. Et nous, chrétiens, dans un pays, une Europe chrétienne, on hésiterait. Évidemment, dans certaines circonstances, peut-être avec la permission du prieur. Tout le monde ne quitte pas la vie. C'est très important de se rappeler ça. Parce qu'on est content de donner un témoignage. Et on donne un témoignage beaucoup plus fort qu'on ne pense, surtout quand on est jeune. Beaucoup plus fort. J'ai jamais quitté la vie. À un moment donné, j'allais à Paris comme ça. On m'a dit, vous savez que le cardinal, c'était pas le cardinal actuel, c'est le précédent. Le cardinal n'aime pas qu'on porte la vie. Je dis, tant qu'il ne m'envoie pas un ordre impératif signé de sa main, je continuerai de le porter. Vous pouvez lui dire. Parce que vrai, je savais très bien qu'il ne m'enverrait jamais un ordre impératif de me demander la vie. Sa main, ce que vous comprenez, dans mes mains, il savait bien que ça ne serait pas resté dans ma main. Je le savais, c'était sûr. Jamais rien n'osait dire, jamais rien. Et aucun dominicain n'osait dire quelque chose. Mais le jour où le pape est passé, tous les dominicains étaient dans les rues de Paris. Parce que le pape était là. Jésus est toujours présent et on oublie de porter la vie. Puis j'ai donné comme dernière raison, le Saint-Père nous demande. Je me souviens quand je prenais le train TGV pour Paris au début, les gens disaient, ah, vous êtes Monseigneur Lefebvre. Je dis, mais pas du tout. Je suis grand ami du pape. Et tout ce que je fais, il l'approuve. Très heureux. Ah, et vous portez la vie. Mais le Saint-Père le demande. Ah, le Saint-Père le demande. Oui, il le demande. Et alors, pourquoi les autres ne le portent pas? Moi, je dis ça, demandez-leur. Demandez-leur. C'est une manière de dire, dans le peuple de Dieu, les volontés du pape actuel. Et ça doit être, mais ça, il faut aimer la vie religieuse pour ça. Accepter que les gens puissent faire des remarques sans aucune espèce d'importance, vous voyez. Il ne faut pas être comme Pierre. Et le ricanement de la servante, c'est une idée, moi je ne connais pas. Non. Parce que c'est un peu ça qu'on fait, hein. Si on enlève la vie, on ne va pas être reconnu comme étant du Christ. On est du Christ. Et la vie nous fait porter, nous montre qu'on est du Christ. Si sa mère demande au prêtre de porter la croix, c'est pour montrer qu'on est du Christ. Oui. Et sa mère tient d'autant plus que le monde se laïcise très fort. Parce qu'au fond, on a tout abdiqué. Je me souviens très bien la question du nonce précédent qu'il est venu à Paris, m'a demandé de venir lui dire bonjour. Il m'a posé la première question. Dis-moi, je ne suis pas français, puisque je suis italien. Comment se fait-il qu'en France, les prêtres ont si vite quitté la soutane et les religieux si vite la vie? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est mis à discuter la question. Oui, c'est au fond un phénomène de laïcisation dans lequel on coopère. Alors, on n'a pas le droit de coopérer à la laïcisation. Je ne juge pas ceux qui ne le portent pas, parce qu'ils ont leur raison. Mais nous, nous avons demandé conseil à Rome. Et j'ai laissé libre, hein, n'oubliez pas, j'ai laissé libre au début. Je leur ai dit, c'est pas moi qui vais donner un ordre. Moi, vous savez bien ce que je pense, parce que j'ai toujours porté. Mais c'est eux-mêmes, au début. Et la question se repose à chaque chapitre. Et à chaque chapitre, ça se détermine de la même manière. C'est très bien. On porte la vie pour montrer qu'on aime la vie religieuse. Et derrière, on aime le Christ. On est des témoins. C'est vrai, on est des témoins. On est des témoins parlants. Il faut aimer ça. On est lié à Jésus, on est lié à Marie. Ça, c'est plus secret. On va pas dire, hein. Parce que vous n'allez pas porter le voile comme les saintes religieuses, n'est-ce pas? Ça, on est lié à Marie intérieurement, au fond de notre cœur, on est lié à Marie et on est lié à la très sainte Trinité, la très sainte Trinité habite en nous, et la vie religieuse veut que cette demeure soit consacrée pour que la très sainte Trinité demeure plus profondément, nous soit pleinement et totalement donnée. Alors maintenant, une fois qu'on a bien vu ça, je vais regarder chacun des vœux, si vous voulez, à la lumière de ces quatre causalités. Pourquoi l'esprit de virginité? Le vœu de chasteté. Pourquoi l'esprit de pauvreté? Pourquoi l'esprit de... Je commence par le premier qui a été de fait le premier dans l'Église. Et celui qu'on reconnaît toujours à Saint Jean. Jean, à la différence d'autres apôtres, n'était pas marié, était disciple de Jean-Baptiste. Il a pu être par le fait même disciple de Jésus, d'une manière toute particulière. Il a été disciple de Jésus de façon toute spéciale. Alors pourquoi l'esprit de virginité? Encore une fois, la raison propre, c'est la vie chrétienne. L'esprit de virginité ne serait pas né dans la justice originelle, selon la tradition des théologiens. C'est l'Église, épouse de Jésus, qui comprend l'esprit de virginité et qui dit que c'est à cause du mystère de l'incarnation, à cause du mystère de la rédemption. Et nous ajoutons, nous, à cause de Marie, qui a cet esprit de virginité. Alors, comprenons, cet esprit de virginité, d'abord, qu'est-ce qu'il est profondément? Le vœu de chasteté est négatif. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur l'aspect négatif. psychologues demeurent sur l'aspect négatif. C'est pour ça qu'il faut leur dire, vous n'y comprenez rien. Pas hésiter de leur dire. Avec les psychanalystes freudiens, qui n'y comprenaient rien du tout à la vie religieuse, chaque fois qu'ils commençaient à parler sur la vie religieuse, je dis, taisez-vous, vous n'avez pas l'expérience. C'est négatif, le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté implique l'acquisition de la vertu de chasteté. Et ça, ça s'acquiert. Un gosse qui naît dans son berceau n'a pas la vertu de chasteté. Non. Il a plutôt une tendance inverse. Puisqu'il est né dans la faute originelle, il a été baptisé et les tendances demeurent. Or, les trois conséquences du péché originel, concupiscence des yeux, concupiscence de la vie, concupiscence de la chair. Donc, nous sommes détraqués de ce côté-là. Plus ou moins, on est tous détraqués. Faut savoir, ça fait pas. Quand on est tous détraqués, ça vaut mieux de demander. Ce qui est très embêtant, c'est d'être seul détraqué. Au milieu de gens. Ils ont tous qui sont. On est seul. Il y a une concupiscence, plus ou moins, encore une fois. Parce que Dieu a permis qu'il y ait des grâces particulières de préservation. On a eu une famille merveilleusement chrétienne. On a été dans un milieu qui nous a beaucoup aidés. Bon, on a été préservés. Mais il peut très bien se faire qu'on ne l'a pas été. Ça ne veut rien dire par rapport à la vocation. Ce que j'ai admiré là-dessus, c'était l'attitude de Marthe. C'était assez extraordinaire. Elle avait une audace dans ce domaine-là. Une audace, vous voyez, par rapport des jeunes qui pouvaient avoir des tentations, ou des prêtres qui pouvaient avoir des tentations, ou des religieuses qui pouvaient avoir des tentations. Merveilleuse. La vocation ne se juge pas à partir des tentations. Quand Marthe disait ça, on ne pouvait plus rien dire. La vocation est une grâce de Dieu. Donc, elle réclame de nous de lutter, c'est bien évident. La vocation nous met en première ligne de combat. C'est bien évident. On est des parents de l'Esprit Saint. Première ligne de combat. Et on est toujours, on accepte tout le temps d'être mobilisé. Mobilisation générale, constante. Et donc on accepte de lutter pour acquérir la vertu de chasteté. La vertu de chasteté s'acquiert dans la lutte. Et puis, il y a vertu infuse de chasteté. La vertu infuse de chasteté est une conséquence de la charité qui vient fortifier notre appétit sensible qui participe de l'intelligence. Que ça se situe, la vertu acquise de chasteté se situe dans notre appétit de concupiscence. Et ça s'acquiert par rapport aux biens sensibles, par rapport aux jouissances sensibles. Et c'est une vertu qui nous permet de dépasser le bien sensible en vue d'un bien supérieur. Dépasser ce que représente ce bien sensible pour être plus disponible à recevoir un bien spirituel, un amour spirituel. C'est ça le propre de la vertu de chasteté. Et la vertu infuse de chasteté, c'est pour nous permettre de nous préparer au royaume de Dieu. Aux noces. par rapport à Jésus. Pour que notre cœur soit disponible. Alors, si nous avons connu un amour humain passionnel, tu as permis peut-être ça, pour nous réveiller. Parce que les tièdes, ils ne les aiment pas. Donc, les passions ont pu très bien s'éveiller à telle époque de notre vie. Ils peuvent tout le temps se réveiller. On lisait au réfectoire, c'était les vieillards qui étaient les plus passionnés. Vous avez remarqué ça. Alors, on voit très bien comment les passions peuvent se réveiller à telle et telle époque. D'après l'Écriture, on voit ces juges de 70 ans qui sont tentés par la belle Suzanne. Ça peut naître à n'importe quelle époque de la vie. On le sait. La vertu nous aide à lutter contre les passions. Et être victorieux. Des passions qui représentent le boire et le manger, ça c'est la tempérance. Et des passions par rapport aux jouissances charnelles, sexuelles. Dépasser ça. En comprenant que nous avons mieux et plus. Et c'est ça l'esprit de virginité. C'est de regarder la vertu de chasteté d'une manière positive. Pour ne pas être un vieux garçon ou une vieille fille. Le vieux garçon et la vieille fille, vous savez bien, c'est celui qui est arrivé à faire ne plus avoir de passion. Donc une indifférence complète. Moi, que voulez-vous? Oui, j'ai une fois pour toutes, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Point de vue-là. Alors, très bien. Alors pourquoi vous n'êtes pas marié? Oh, c'est parce que ça m'aurait mené trop de tracas de me marier. Ce vieux fermier normand, je ne suis pas marié parce que, voulez-vous, ça coûte cher une femme. Hein. Moi, j'ai voulu être plus libre. Alors, vous voyez, c'est pas la vertu de chasteté, c'est pas l'esprit de virginité. Non, c'est pas juste ça. C'est tout simplement pour être plus libre. Mais pour pouvoir travailler davantage, intellectuellement. Travailler davantage au point de vue artistique. C'est de pouvoir avoir une bibliothèque plus importante, plutôt que d'acheter des belles robes pour la fiancée. Ou pour ma femme. Non. Mais c'est pas ça. L'esprit de virginité, c'est pour aimer plus Jésus. Aimer plus nos frères. C'est pour aimer plus de la charité fraternelle. Mais c'est avant tout pour aimer plus Jésus. Pour être davantage épouse. Donc avoir une sensibilité plus délicate. Pour avoir des passions bien taillées pour qu'elles soient totalement orientées vers Jésus. L'esprit de virginité augmente en nous la passion. Parce qu'on est passionné pour le Christ. Et c'est pour ça qu'on aime passionnément sa vie religieuse en vue du Christ, pour l'aimer Jésus. C'est ça l'esprit de virginité. C'est quelque chose de très très fort en nous. Vous voyez, c'est de considérer qu'au point de vue de l'amour, on est imbattable. On n'hésite pas de dire à des gens qui sont pris par des passions de jouissance, de leur dire ouvertement, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour. Et de leur montrer qu'on aime plus que. L'esprit de virginité, c'est aimer plus pour rejoindre la parole de Jésus. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Et mon unique désir, c'est que ce feu brûle tout. Et notre esprit de virginité, c'est pour que ce feu brûle tout. Et on veut que cet esprit de virginité soit conquérant. Et les conquérants, dans la mesure où justement on le vit. Alors on n'hésite pas de montrer que l'esprit de virginité, loin de nous replier sur nous, c'est au contraire un amour qui nous ouvre davantage à Jésus et qui nous permet de l'aimer plus. Et par le fait même d'aimer plus ses frères. L'esprit de virginité, vous voyez, loin d'arrêter la charité fraternelle, permet à la charité fraternelle d'aller plus loin dans le don que nous faisons de nous-mêmes à nos frères. Dans une limpidité du cœur. L'esprit de virginité réclame une très grande limpidité du cœur. Oui, la passion n'est pas limpide. Les passions sont toujours un tout petit peu d'une opacité qui se sent, qu'on ne peut pas accepter en fonction de l'esprit de virginité. Vous voyez, on est passionné, mais la passion est purifiée du dedans par un amour divin. Alors, à ce moment-là, on n'est plus passionné que n'importe qui, mais c'est orienté vers l'amour du Christ, en premier lieu. L'esprit de virginité nous oriente avec un très grand amour divin et humain pour Jésus, et qu'on veut l'aimer. Donc vous voyez, il y a un absolu dans l'esprit de virginité. Il y a un absolu positif. On n'est en rien replié sur soi. Mais on a une intériorité d'amour qui va très loin. Cette intériorité de l'amour, c'est Jésus qui nous a aimés le premier. Et parce qu'il nous a aimés le premier, on laisse la place nette pour lui. Il frappe à la porte, il a tous les droits. Il nous prend et nous saisit. Cet esprit de virginité doit nous prendre totalement au plus intime de notre âme. Et il est dans la volonté. Parce que nous voulons aimer Jésus le plus qu'on peut. Il a apporté le feu et il veut que ce feu prenne tout. Donc on veut aimer Jésus le plus qu'on peut. C'est ça qui nous intéresse. Être des amoureux du Christ au sens divin, au sens évangélique. On veut aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est pour ça qu'on accepte la taille du Père. On l'accepte au noviciat, on l'accepte pour toute notre vie. Entre le noviciat, après avoir fait ses vœux, l'exigence de l'esprit de virginité va en grandissant. Saisi au noviciat demande de grandir. Il ne s'agit pas de dire qu'après il y aura des compromis. Pas du tout. L'esprit de virginité est intraitable. Il ne faut pas de compromis. Autrement, on est divisé. Si on commence à aimer quelqu'un plus que Jésus, ou à aimer quelqu'un à côté de Jésus, ça ne va plus du tout. Plus du tout. Parce que ça implique le don. Là, vous voyez, c'est rattaché au mystère de l'incarnation. Parce que le cœur de Jésus, par l'incarnation, est totalement donné au Père. Il a une nature humaine et une volonté capable d'aimer, mais son cœur est totalement consacré et radicalement consacré par le mystère de l'incarnation. Et ce cœur est doublement consacré avec le mystère de l'Holocauste de la croix. Et c'est ce que nous verrons dans le cœur de Marie. Son cœur est doublement consacré. Et c'est ce que nous verrons dans notre consécration.